Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc ce dimanche clôture l'année liturgique. C'est la fin d'un temps et nous allons entrer dans un autre temps, un autre cycle. La vie du chrétien semble ainsi se dérouler de façon cyclique et être un éternel recommencement. Mais en réalité, c'est plutôt comme une spirale, comme une vis d'Archimède, qui à chaque tour nous fait entrer de plus en plus dans le mystère de notre vie, le mystère de notre intériorité. Mais avant de parler de l'évangile du jour, j'aimerais vous parler des visions de Daniel que nous avons entendues dans la première lecture. Lorsqu'il parle de deux personnes, l'ancien des jours et de quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Alors notre première interprétation logique serait que Daniel voit dans son rêve deux personnages et que l'ancien des jours est le Père et le Fils d'homme, le Christ. Et c'est d'ailleurs l'interprétation que la plupart des exégètes donnent. Mais cependant, j'ai trouvé une autre analyse qui nous montre que ces notions représentent le Christ sous deux manifestations. Une manifestation glorieuse, évoquée par la figure de l'Ancien des Jours, et une manifestation humble dans la figure de quelqu'un comme un fils d'homme. C'est une vision, c'est un rêve que fait Daniel. Et dans ce cas, le temps, l'espace et la logique cartésienne de notre cortex n'ont plus cours. Vous savez aussi que celui qui préside au jugement eschatologique, au jugement dernier, est le Christ, au moment de son second avènement. Et d'ailleurs, dans le Credo, nous disons « Il, en signifiant le Christ, reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura point de fin. » Et Daniel dit, justement, un peu avant, « L'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige. Le tribunal prit place et l'on ouvrit les livres. » Et de même, en Jean, en chapitre 5, verset 22, « Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils le jugement tout entier. » Et saint Jean Chrysostome, donc ce grand-père de l'Église que nous allons fêter cette semaine, dans sa deuxième homélie sur l'incarnation, nous dit « L'ancien des jours se fait petit enfant, celui qui est assis sur un trône sublime est couché dans une crèche. » C'est le Logos qui s'est fait chair. Et quand on lit ça, ça tient la route aussi de dire que l'ancien des jours serait donc le Christ au second avènement. Et le Fils de l'homme, bien sûr, c'est aussi le Christ. C'est celui qui vient bâtir le royaume d'amour, celui qui prend la nature humaine pour se manifester aux hommes. Il devient semblable à nous pour nous amener à devenir semblable à lui. Ce fils d'homme reçoit un royaume, mais Daniel ne précise pas de qui. Puisqu'il écrit « On lui donna » ou bien « il lui fut donné ». Alors pourquoi je vous dis tout cela? Parce que dans l'évangile du jour, on nous parle aussi du Fils de l'homme et de la fin des temps. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et qu'est-ce que c'est que ce signe du Fils de l'homme? Eh bien ce signe, c'est la croix. C'est le symbole de l'amour inaliénable du Christ pour l'humanité. Saint Bernard disait d'ailleurs que l'homme est cruciforme, qu'il étende les mains et cela devient plus évident. C'est lorsque notre attitude est ouverte comme la croix que nous sommes à la ressemblance de Dieu. La croix est notre vocation. Être ouvert dans l'amour à l'univers, au cosmos et à tout ce qu'il contient. Notre croix est fragile et nous sommes souvent enclins à la replier, par crainte, par peur de perdre notre bonheur, par peur de perdre nos biens. Mais la croix, c'est aussi pour le Christ celle de l'amour trahi. Lui a été cloué au bois par la jalousie des chefs religieux, trahi par Judas, renié par Pierre. Et aujourd'hui encore, ne sommes-nous pas semblablement jaloux, traîtres, blasphémateurs, imbus de notre position, oublieux de Dieu? La croix, c'est la souffrance que le monde sans Dieu impose à Dieu, écrivait le théologien Dietrich Bonhoeffer. Le problème est que nous en subissons chaque jour les conséquences de ce manque d'amour. Regardons combien le monde d'aujourd'hui est défiguré, combien le repli sur soi a pris de l'importance, combien de chefs religieux ou politiques se prennent pour Dieu, mais n'en ont pas sa sagesse. L'abomination de la désolation dont parle Matthieu, ce n'est pas que la ruine du temple en l'an 70, mais pour l'humanité, c'est la crucifixion sans cesse renouvelée de Jésus. Si physiquement la mise à mort du Christ a eu lieu il y a 2000 ans, aujourd'hui encore, chaque jour, nous le mettons à mort par le non-respect de la création, par la profanation de l'humain, du vivant, par nos manques d'amour, par nos violences, par nos refus de pardonner, par nos intolérances, par ce moi possessif qui chasse Dieu dehors et qui, comme les Juifs de l'époque, met Dieu entre les quatre murs du temple ou de nos églises de pierre. Toutes les guerres ne sont que le reflet du maintien de Dieu loin de nous. Aujourd'hui encore, notre génération vit cette désolation et nous courons dans tous les sens, parfois comme des poules sans tête, pour trouver ce qu'on nous dit être Dieu, l'argent, la gloire, le pouvoir. La vie en Christ, le royaume de Dieu, nous demandera du courage pour garder le cap. C'est une lutte continue pour ne pas succomber aux assauts du démon et continuer à participer à la construction du royaume d'amour proposé par Dieu. Encore aujourd'hui, il y a des faux prophètes, comme ceux qui essayeront de nous faire croire que l'argent, la puissance et la science donneront le bonheur à l'humanité, au point d'abuser les élus eux-mêmes si c'était possible, avons-nous entendu dans l'Évangile. Mais ceux qui ont choisi le Christ comme guide de leur vie ne seront pas abusés, car ils auront la force de Dieu pour les protéger, la sagesse de Dieu pour les diriger, l'œil de Dieu pour les guider et la puissance de l'Esprit de Dieu avec eux. Oui, cette prophétie, certains diront que nous sommes en plein dedans et que c'est en effet la fin d'un temps. Mais il y a un message d'espoir qui commence aussi dans cette prophétie et qui commence par, et c'est assez bizarre, en quelque lieu que soit le cadavre, là se rassemblent les aigles. L'aigle ou le vautour a la faculté de voir de très loin et il se rassemble en tournant haut dans le ciel. Le ciel symbolise la demeure de Dieu. Et les aigles, ce sont aussi tous les saints qui ont revêtu un corps glorieux, semblable à celui du Christ après sa résurrection, et qui se rassemblent déjà autour de Dieu. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et comme je vous disais précédemment, ce signe, c'est la croix, le symbole de l'amour infini du Christ pour l'humanité. Apprenez aussi la comparaison du figuier. Dès que les rameaux deviennent tendres, que les feuilles poussent, Vous savez que l'été est proche. C'est d'espérance dont nous parle ici le Christ. Vous savez qu'il se sert toujours de comparaisons prises dans la nature dont le cours est réglé par un ordre stable, un ordre immuable. Si ces cataclysmes que nous connaissons aussi aujourd'hui nous donnent l'apparence que tout est perdu, que tout va vers la mort irrémédiablement, il y a des signes de vie qui apparaissent, des signes de retournement, de prise de conscience, des actes d'amour qui fleurissent çà et là. Le souffle vivifiant de l'esprit est toujours à l'œuvre pour ramollir notre cœur de pierre, pour insuffler la vie en Christ. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Tout ce qui a été construit sera un jour déconstruit. Tout ce qui a été composé sera décomposé. Les paroles du Christ conservent toute leur plénitude et leur force. Elles ne cessent de s'accomplir tous les jours à travers des hommes et des cœurs aimants. Les paroles du Christ sont des paroles de vie, des paroles d'amour et de vérité. Elles sont intemporelles et universelles. Elles ne sont pas soumises à l'espace-temps. Cette prophétie donnée par le Christ s'applique à chacun d'entre nous depuis la nuit des temps, quelle que soit l'époque. À Noël, et nous allons rentrer dans le temps de préparation, l'ancien des jours sera rendu humble en se faisant fils d'homme. Il est apparu ainsi comme fragile, vulnérable. Et à sa résurrection, c'est le triomphe de la force de l'amour qui nous est montré. Et lors de son second avènement, ce sera comme l'ancien des jours, dans sa gloire, qu'il se manifestera. Toutes les catastrophes, tous les signes que nous vivons aujourd'hui ne sont pas voulus par Dieu pour nous punir, mais elles sont les conséquences des actions, de la conduite de l'homme qui se détourne de Dieu. La prophétie d'aujourd'hui est avant tout un signe d'espérance. Elle nous met en garde contre la folie d'un monde, mettant en danger l'équilibre de la création, l'équilibre de la vie. Alors oui, ce sera difficile, ce sera désastreux, mais au-delà, le Christ sera vainqueur, comme il a vaincu la mort sur la croix. Notre vie terrestre nous donne l'opportunité d'accompagner et de prendre part à ce triomphe de l'amour. Mais il demande à chacun d'entre nous de faire un choix et de se positionner. À lui soit louange, honneur et gloire au siècle des siècles.